Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, comme dit dans l'intro. Alors, l'exégèse des moyens bras cette fois quand même, parce que...
Non, attends,
Danny Glover, c'est pas Schwarzy.
Mais tu t'en fous, c'est le Predator. Voilà.
Je suis avec mon ami Julien Dupuis, on va parler de Predator 2. Alors pourquoi Predator 2 et pas Predator, vous direz-vous? On a quand même une règle sur Steroids, c'est que les très bons films, voire les grands films, voire les classiques, on se les garde quand même pour une émission vidéo. Et les films qu'on trouve cool et qu'on aime bien et qui sont chouettes et qui sont sympas, et ben on se les garde pour un petit podcast. Donc Julien,
si on les a vus 20 fois dans notre vie, en général on fait un podcast dessus. Quoi.
Voilà, si on les a vus 40 fois, on fait une émission vidéo. Voilà. Comment ça va, Julien? Predator 2, ça t'a reboosté de le revoir là.
Ah, c'était cool. Non, bah, alors moi je l'avais découvert en salle à l'époque, évidemment.
Moi aussi, ouais, bien sûr.
Et c'était un film bien dans le ton de l'époque et en même temps qui finissait une certaine décennie en fait. C'est sorti en 90, donc ça finissait quand même la décennie.
91 chez nous.
91 chez nous, ouais, effectivement. Et ça finissait en fait la décennie des années 80, quoi. C'est-à-dire que après Joel Silver, ça commençait à plus tout à fait être la même chose. C'était pas la même gloire et tout. Mais en même temps, il y avait plein de trucs en fait qui étaient dans le ton de l'époque, quoi. À commencer par le type de mise en scène en fait de Stephen Hawkins, qui était la recherche du plan dans ta face, quoi. Basiquement, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui cherche forcément à construire une grosse mise en scène très sophistiquée et tout. On n'est pas chez McTee, quoi.
En tout cas, à l'époque.
Ouais.
Il a un petit peu plus cherché à faire ça plus tard.
Plus tard, effectivement. Mais là, vraiment, il cherche le plan dans sa gueule. Et en plus, alors ça fait partie des nombreuses qualités du film. C'est Jim Murrow qui était au Steadicam, qui est le plus grand Steadicamer après Garrett Brand, qui est l'inventeur de cette ce stabilisateur, ce harnais de stabilisation de la caméra. Et Jim Murrow était à l'époque, en tout cas, connu comme étant le spécialiste du Steadicam dans les films d'action. Et pourquoi je parle de lui, c'est qu'il y a vraiment des plans dans Predator qui lui sont dus, quoi, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une scène, par exemple...
Predator 2, pardon.
Mmh. Ouais, il y a une scène dans le métro, par exemple, avec des travelling avant super dingues qui vont hyper vite. Il y a des plans ras du sol qui sont des choses qu'il avait déjà fait. Il avait réalisé un film du Murrow qui s'appelle Street Trash. Et tu reconnais, en fait, le type du mec-là. C'est marrant parce qu'il y a... Je vais pas jusqu'à dire qu'il est co-réalisateur, loin de là. Mais en tout cas, son apport se sent et est bien appréciable.
Julien, tu t'en... Tu vas trop loin, tu étais déjà en train de parler de la fin du film. Voilà. Predator 2, ça parle de quoi? Alors attends, bon, parce que il faut resituer dans le contexte. Predator n'appelait pas une franchise, non. Automatiquement. C'est
un gros film à problème.
Voilà, ça a été un succès.
Plutôt inattendu.
Enfin, inattendu, pas... oui et non, c'était quand même Arnold, c'était dans sa...
Ça a été plus que ce que le studio attendait, ça c'est clair et net.
Voilà, et même encore aujourd'hui, puisque c'est un film qui n'arrête pas de revenir dans leur... dans leurs charts, en fait,
plus
parce qu'ils se rendent compte que... Alors, non, mais qui se vend très, très bien,
oui,
en fait.
Oui, oui.
Voilà. Et qu'ils essayent de... Et donc, c'est une franchise qu'ils essayent... C'est un peu une franchise malgré elle, parce qu'ils essayent de la relancer en permanence sans franchement y arriver. Mmh. Et déjà, à l'époque, avec Predator 2, ça a été un problème, puisque Arnold ne voulait pas faire le film. McTiernan ne voulait pas faire le film. Donc, comme tu l'as dit, on tombe sur Stephen Hopkins, qui, à l'époque, avait fait Freddy 5.
Il est arrivé sur le film grâce à Freddy 5. Et Freddy 5, en fait, c'est un film... Parce que tous les Freddy étaient des films à problème. Tous les Freddy étaient des films qui étaient faits dans une urgence délirante. Et le pire, le pinacle en fait du film en merde, c'est quand même Freddy 5. Enfin, c'est un des pires. Avec, je crois que ils doivent se tirer la bourre avec le 4. Et lui, il avait surpris parce qu'il avait, il était dans une école de. Alors, c'est un peu injuste ce que je vais dire parce que c'est pas gentil pour Stephen Hawkins, mais il était un peu dans l'école Russell Mulcahy en fait.
Ah mais c'est réalisateur australien de clips. Voilà, il était clairement.
Ouais, mais oui.
Jamaïcain, ouais, mais...
Mais en fait, en tout cas, il était dans ce truc du plan choc et tout qui convenait super bien déjà à l'époque à Freddy. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien la franchise. Et dans le 5, qui est encore, c'est un film film foutraque et tout, comme tous les Freddy, mais c'est vrai qu'il y avait des... Tu comprends pourquoi Joel Silver allait le chercher là. C'est-à-dire qu'en dehors du défi de production qu'il avait réussi à amener, parce que c'est un film qu'il a monté en même temps qu'il le tournait, parce qu'il y avait une date de sortie de fou, quoi. Il y a des plans et des images dedans, une énergie qui sont assez dingues, quoi. Enfin, qui sont, je pense, parmi les plus dingues de la saga des Freddy. Saga des Freddy. Mmh. Voilà.
Et alors, le truc, c'est que Predator 2, quelque part, c'est l'antithèse presque du premier, mmh. pour moi, dans le sens où, alors, le premier, c'est un film qui, malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir, en fait, a été assez construit, en fait, à part une scène d'action éventuellement en début de film qui n'est même pas réalisée par McTiernan, qui était réalisée par le réalisateur de seconde équipe, et que McTiernan renie, d'ailleurs. Mmh. Y a finalement, en fait, assez peu d'action avant que Arnold et son équipe se retrouvent vraiment face à face avec le Predator, ce qui prend un peu de temps. Donc il y a une construction crescendo qui est absolument pas du tout dans Predator 2, ouais, puisque
absolument pas, ouais.
parce que ça commence d'entrée de jeu en fait par une scène de guerre des gangs dans les rues de Los Angeles. Alors
de guérilla urbaine,
voilà,
quoi, vraiment.
C'est, ouais. On est dans le futur puisqu'on est en 1997, ouais, voilà, ouais. qu'il fait très très chaud et l'une des idées, alors qu'on pourrait considérer comme ingénieuse, mais qui je pense aussi est symptomatique des problèmes des suites de Predator, c'est qu'en fait on déplace le personnage du Predator, la créature du Predator en fait de la jungle à la ville. Et c'était le gros argument de vente du film, puisque le
c'est
film
la jungle urbaine, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Et le film s'ouvre sur un plan qui te fait croire que c'est la nature, en fait, mm-hmm. et pour finalement terminer sur un panorama de Los Angeles.
De downtown, ouais.
Voilà. Et alors, parce qu'on se fait des petites listes entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on va traiter comme film, et moi je t'avais envoyé une petite liste, et on s'était mis d'accord sur certains trucs, et mmh. tu m'as dit ah, faisons Predator 2 en mode full cocaïne, parce que c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un film qui part en cacahuète dans tous les sens, quoi. Mmh. C'est assez réjouissant. Je pense inconcevable de faire un film comme ça aujourd'hui
dans le
fonctionnement des studios hollywoodiens.
Bah, c'est ça, c'est en fait tu revois ce film et tu peux pas t'empêcher de te dire mais putain maintenant ça, cette franchise elle appartient à Disney, quoi. Et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film-là? Non mais c'est un vrai problème, quoi. C'est-à-dire que tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film-là maintenant? Parce qu'il va pas se retrouver sur Disney+. Ils vont pas le ressortir maintenant, je sais pas, moi, en 4K ou un truc comme ça.
Enfin, ah, c'est en 4K, il est sorti.
Ah, il est en 4K.
Ouais, parce qu'il y a un coffret, mais c'est sorti avant que
avant
le rachat, ouais.
Avant le rachat. Donc ouais. Voilà, enfin bref, en tout cas, je sais pas quel va être l'avenir en fait de ce film, mais c'est vrai que c'est, comme je le disais en ouverture, vraiment un film de son époque, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper gore, par exemple. T'as une nana à poil. C'est à l'air con comme ça, mais une nana en full frontale.
Ouais, qui baise en fait.
En plus,
ouais,
qui
ouais.
baise, et puis après, mais qui est liée avec une scène en plus, une des scènes
assez crapoteuse,
assez gore. Assez dégueulasse, quoi. Et ça, c'est des choses que tu vois plus. T'as beaucoup de drogue aussi dans le film. Donc, t'as les mecs, dès le début, ils sont cocaïnés à mort et puis ils tirent, ils sont encore plus excités et tout, quoi.
Et ça, c'est un espèce de renvoi à Scarface, en fait, j'ai l'impression. Parce que t'as l'impression. Là, tu sens que, pour le coup, tu sens l'influence, je trouve, de Joel Silver, qui se dit, OK, moi, je vais ouvrir avec une scène à Scarface, ou comme si le personnage de Scarface et ses hommes de main étaient en train de se friter avec les flics. Et ils sont incontrôlables et c'est le Predator qui va les niquer. Mmh. Et pour installer tout de suite le personnage du Predator au cas où t'aurais pas vu le premier et en faire un vrai chasseur, un vrai tueur implacable, quoi. Mmh. Et alors le truc, c'est que donc, pareil avec le personnage de Danny Glover, il y a un truc qui est assez étrange, je trouve, c'est que je trouve qu'il fit pas tout à fait dans le film de manière générale. J'ai toujours eu un problème avec ça. Moi, j'ai bien aimé le film quand il est sorti à l'époque. Très déçu par rapport au premier film, je me rappelle déjà, enfant. Mmh. J'avais 14 ans quand c'est sorti. Et je m'étais dit, un des problèmes que j'avais, c'était j'arrive pas à acheter le personnage de Danny Glover, qui est pour moi un excellent acteur, hein. Mais un excellent acteur de second rôle, en fait. Je ne sais pas s'il est capable de tenir une tête d'affiche. En tout cas, sur un film d'action. Et je trouvais que ça faisait partie d'un des problèmes. Qui plus est, en fait, que le casting en fait, qui l'entoure est
pareil.
Ah bah,
tout le monde est là, quoi.
Ouais, mais qui est assez étonnant, en fait.
T'as Robert Davi, t'as Gary Buzet.
Alors là, tu parles des second rôles, vraiment des trognes, quoi, couteaux, quoi. Mais moi, je parlais vraiment de son équipe.
Ah oui.
T'as Maria Conchita Alonso.
Qui est super.
Voilà, elle est super, bien sûr. T'as Bill Paxton, qui est super, mais qui est pareil, il joue le douille, quoi.
Bon, comme assez souvent. Il joue son perso d'Aliens, hein. C'est
oui, en plus sophistiqué, on va dire, puisqu'il est quand même un peu street smart, quoi. Mais et il y a Robin Blaze, pareil, qui est à la base un chanteur latino, donc c'est,
aussi,
voilà, mais qui est assez étonnant. C'est assez étonnant de le retrouver. Donc il y a beaucoup de prises de risque, et t'as l'impression qu'en fait ils ont cherché vraiment à savoir quel héros d'action ils allaient arriver à mettre dedans pour finalement se rabattre sur Danny Glover. Et alors, t'as parlé de Robert Davi, t'as parlé de Gary Buzet. Mmh. Et Gary Buzet, apparemment, il y a une rumeur, mais ça, j'arrive pas à savoir si c'est tout à fait vrai, comme quoi son personnage, qui est un personnage en fait qui traque le Predator.
Qui est un mec des services secrets,
voilà,
du gouvernement.
Non, on sait pas exactement de quelle branche. devait à la base être prévu pour être le personnage de Schwarzenegger, en fait. C'est-à-dire que 10 ans après les événements, puisque ça se passe en 97, 10 ans après les événements de
ça semble bizarre parce qu'il est quand même vraiment film. L'antagoniste, quoi. Donc,
oui, mais apparemment, ça était un des retournements et potentiels du film, quoi.
D'accord. Okay.
Et Arnold ne faisait pas de suite à l'époque, à part Terminator 2. Et du coup, il a refusé de toute façon d'apparaître dans le film. Voilà. Alors après, le truc, c'est quand on dit que c'est une antithèse du premier film, c'est aussi que, en fait, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est un film qui a beaucoup d'humour aussi, c'est-à-dire parce que mine de rien, en fait, qui est encore vraiment bien plus violent que le premier.
T'as des vrais trous scénaristiques avec des persos, tu dis mais comment il est arrivé là exactement et comment ça se fait qu'il est arrivé pile là à cet
endroit-là comment aussi, il, par exemple, un truc tout bête, mais la scène où le prédateur bute les Jamaïcains dans la penthouse, justement la scène avec la nana à poil, en fait, le prédateur perd une de ses armes, Ruben Blades est censé le récupérer, il meurt. Et finalement, ils ont quand même récupéré l'arme mais alors que c'était lui. Voilà, et ils le présentent à d'autres personnages. Donc du coup, tu te dis, ok, d'accord, donc bon, voilà. Et je pense que c'est un film qui a posé problème aussi au studio à l'époque, parce que c'est un film qui s'est planté. En tout cas, à la mesure des attentes, c'est un film qui a coûté 2 fois plus cher que le premier, qui n'a pas rapporté ce que le premier avait rapporté à l'époque, et qui en plus n'a pas forcément la même popularité, loin s'en faut, et encore aujourd'hui. Mais par contre, en fait, c'est un film qui a créé quelque chose pour la franchise, et ça, je pense que c'est assez clair. Il a créé en fait cette espèce de dynamique avec les comics qui sont sortis derrière, et à peu près en même temps, qui ont transformé le personnage du Predator aussi en personnage de comics. Hein. Le Predator, il s'est retrouvé à se battre, par exemple, contre Batman dans un épisode spécial. Et le film a ça, je trouve, en fait. C'est-à-dire qu'il a ça dans ses gènes, un peu. Il a un côté comic book très assumé, quoi.
Mais c'était ce qui plaisait aussi, je pense, à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était totalement frustrés, nous, justement... par le manque d'adaptation de comics. Qu'est-ce que ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais et c'est vrai que voir de voir des bastons comme ça dans la ville, dans un milieu très 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 habité, en plus c'est chouette parce que ils avaient pas eu peur d'aller tourner dans les coins les plus craignos en fait de Los Angeles, c'est-à-dire que les scènes de l'allée et tout, moi j'en avais parlé avec je crois que c'était avec Shane Mahan qui était au Stenhouse Studio, donc le studio qui avait fait les effets spéciaux, et il m'a raconté que c'était vraiment dégueulasse, quoi, et qu'ils tournaient dans des conditions vraiment d'insalubrité mais totale, quoi, et c'était pénible, en fait, c'était pénible pour tout le monde, et puis ils tournaient aussi dans des quartiers qui craignaient, quoi, où c'était pas mal finalement d'avoir une arme, quoi, dans pas loin, et ça se sent, en fait, dans le film, ça
c'est même réutilisé dans certains gags, en fait, la scène du train, justement, oui, avec tous les citoyens qui ont une arme à feu à la main.
Ça sent, en fait, que c'est tourné in situ, en plus, dans un Los Angeles qui, pareil, a un peu disparu, enfin, en tout cas, que tu vois très très peu maintenant aujourd'hui
au cinéma,
que tu vois très peu aujourd'hui au cinéma, et c'est vrai qu'il y a un côté un peu foutraque dans le film, mais moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui n'est pas hyper long, qui, je pense que ça doit durer un quart d'heure dans le film, ou qui marche vraiment super bien. Et c'est dommage qu'il y a 2-3 petits gags, en fait, notamment Danny Glover avec des oiseaux, je pense, notamment, et qui est le pur moment de chasse urbain, en fait, entre les deux personnages. Et notamment avec un moment de suspension que j'aime beaucoup, mais vraiment, honnêtement, au premier degré, où le prédateur doit se soigner.
Tu parles vers la fin.
Vers la fin, ouais. Et je trouve qu'il y a la création là d'un moment d'ambiance, de tension, qui est beaucoup moins bourrine en fait que tout le reste, et qui pour moi fonctionne vraiment vraiment très très bien.
Mais c'est ça qui est assez étonnant quand tu revois le film, en fait, c'est que il y a une vraie construction de séquences d'action, c'est-à-dire que en tout cas la volonté d'étirer un petit peu ces scènes, alors qu'en fait aujourd'hui, et bon, on l'a vu même avec le Shane Black, hein, dans l'absolu, une idée en amène une autre, qui en amène une autre, et finalement, en fait, on passe très très rapidement sur ces séquences-là, et on préfère faire des scènes d'action plus... Alors, Shane Black, c'est sa spécialité d'écrire les scènes d'action, plus ramassées, mais d'en mettre plusieurs, plutôt qu'en fait de les étirer, quoi. Après, à la mesure, en fait, enfin, si on le recontextualise dans la sortie du film... c'était un film qui allait très vite à l'époque, hein, oui. Predator 2. Et quand on dit foutraque, c'est parce qu'il y a pas mal d'éléments différents. Moi, je pense, alors, c'est marrant parce que je m'étais jamais vraiment posé cette question. Je sais qu'à l'époque, déjà, je me disais, le Predator, en fait, qui est une créature majestueuse, magnifique, en fait, qui est vraiment un superbe design. Comment ça se fait qu'il est moins majestueux dans celui-là? Est-ce que c'est une manière de le filmer? Est-ce que c'est... Et en fait, je me suis vachement posé ces questions-là, et j'en avais parlé avec notre ami... Enfin, c'est Arnaud Bordas, en fait, qui en avait parlé dans un podcast, et qui avait mis la puce à l'oreille, et je pense qu'il a raison là-dessus. C'est une créature qui a été créée pour les besoins du premier film, dans le contexte du premier film, c'est-à-dire vraiment la jungle, et la, sa façon en fait de disparaître, parce que c'est ça, hein, le prédateur, il disparaît dans le décor, et d'un seul coup, en fait, quand tu l'enlèves de cette racine, puisqu'il sert à ça dans ce premier film, et comme on l'a dit, à la base, c'était pas censé donner une franchise, c'était censé être un film, et d'ailleurs, c'est le prédateur, finalement, qui est le lien de tous les films, mmh. Le enlever en fait de la jungle pour le mettre dans un autre contexte. Alors bon, là on parle de d'une grande ville, mais dans les autres suites, c'est par exemple dans Predator, c'est sur sa planète. Dans comment dire, AVP, c'est en Antarctique. Enfin voilà, dans une espèce de ruine Inca, si je me souviens bien, parce que c'est des films que je ne veux plus. Dont je ne veux plus me rappeler, voilà. C'est assez étrange, en fait, finalement. Et je pense que ça dessert un peu le personnage. Et je trouve que dans le film, dans la façon dont il est filmé, quand tu le vois en train de grimper des immeubles, il y a un côté un peu ridicule,
alors,
en fait.
En fait, il y a une autre raison à ça. C'est que, parce que le truc, c'est que Arnaud a probablement raison, hein, en partie, je pense seulement, parce que pour le coup, c'est la fabrication du Predator, c'est vraiment un truc que je connais très bien. Mmh. Je connais bien deux personnes qui ont travaillé dessus et qui m'ont bien expliqué comment ça s'est passé. Il faut savoir que McTee a été quasiment pas impliqué, en fait. Sur le premier.
Sans parler de ça. Hein.
Et ça a été, juste pour un rappel, en fait, le premier, il y a eu deux choses. C'est que ça a été une conception ultra rapide, faite en catastrophe. Mm. La plupart des éléments de costume du Predator qui font triper aujourd'hui certains fans ont été rajoutés pour combler des trous dans le costume, parce que le costume, il n'y avait eu qu'un seul tirage, ils n'avaient pas eu le temps de le refaire, etc. Et il y a ça. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que c'était le début d'une part des masques mécaniques. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'autre part, c'était le début des costumes aussi entiers en mousse de latex, qui était finalement un truc qui se faisait pas trop et qu'on commençait à bien maîtriser, hein, à Hollywood, mais pas plus que ça. Et ça a donné au Predator, parce que c'est le même interprète du Predator,
ouais, fait, Kevin Peter trucs, Hall.
Kevin Peter Hall,
qui est mort peu de temps après.
Peu de temps après. Et en fait, ça a donné aussi ce côté un peu massif au Predator du premier film. Et dans le deuxième, le principe du Sunstone Studio, déjà, il n'y avait plus Steve Wong, Matt Rose et Shannon Shee, qui étaient les trois leaders à trois têtes, on va dire, le King Hydra de la conception du Predator dans le premier film.
Mais qui référence des monstres pour des créateurs de monstres.
Parler d'autres monstres. Ouais. Donc, et c'était d'autres designers talentueux, hein, d'ailleurs, hein, comme Mark Crash McCreary, et puis c'était John Rosengrant et Shane Mann qui s'en occupaient. Mais eux, leur principe sur le deuxième, d'une part, artistiquement, c'était de faire un prédateur plus jeune. Mmh. Donc, c'était de faire un prédateur beaucoup plus mince, beaucoup plus fin. Donc ça forcément, de fait, ça enlève...
Mais qui chose quand même du 75.
Bah oui, forcément, ouais. Parce que c'est Kevin Peter Hall, il y a des grands pieds. Mais voilà, mais donc voilà, ça enlève quand même du truc. Et il y a un autre choix technique sur le deuxième, qui est un choix dû au fait que ils avaient plus de temps et plus d'argent, et qui je trouve pas heureux du tout, moi. Alors voyeur, j'aimais bien à l'époque, mais alors, je trouve que ça fait partie des trucs qui ont vraiment mal vieilli, qui est que pour les gros plans, en fait, du Predator, ils se sont pas contentés, en fait, du masque animatronique. Donc c'est pas les yeux, en fait, de Kevin Peter Hall avec des maquillés, avec des lentilles de contact. C'est un buste mécanique, en fait, avec des yeux qui sont, à mon sens, un raté, c'est-à-dire qu'ils sont assez opaques. Ils manquent cette clarté de vie, en fait, dedans. Et du coup, je trouve que le Predator dans le 2, ça lui donne un côté presque Muppet, en fait.
Ah, mais complètement.
Au personnage, quand il y a des gros plans, et c'est justement dans les gros plans qui sont importants. Je veux dire, le gros plan du Predator dans le premier film, quand il enlève son masque, il est hyper important. Je veux dire, c'est le truc que tu as attendu pendant tout le film et tout.
Oui,
et
puis en fait,
et
c'est,
là, ça casse le truc, quoi.
En plus, c'est marqué par une punchline, hein, dans le premier, qui est reprise dans le 2, et qui, pour le coup, est ridicule dans le 2, puisque tu te retrouves effectivement avec un espèce de prédateur qui roule des yeux et qui voilà.
Après, ceci dit, il y a des beaux prédateurs à la fin, la mort, et puis il y a un autre truc qui est agréable dans le 2, moi je trouve, qui est pour le coup qu'ils ont réussi, qui est l'arsenal aussi du prédateur, qui est vraiment fun, quoi, qui est vraiment cool, avec notamment une espèce de boomerang frisbee coupant que j'aime beaucoup, moi.
Mais c'est un des trucs, en fait, les plus intéressants, je trouve, aussi du film, c'est que dans la conception des scènes d'action, Alors, je trouve qu'il réussit pas tout, hein, Stephen Hopkins. Mais par exemple, j'aime bien la scène de la boucherie, où il y a dans l'abattoir, en fait, où c'est assez intéressant la façon dont il joue avec les visions du prédateur, les différentes visions du prédateur, puisqu'il essaie de le coincer en cachant leur signature thermique, les personnages de Gary Busey. Et du coup, tu te retrouves avec une scène où le prédateur change de vision pour essayer de les capter. Et il capte finalement les lumières, quoi. Il les a repérés. Et du coup, il les massacre un par un, quoi. Voilà. Mais par contre, et je comprends le concept de mise en scène, on va dire de voilà. Mais je trouve que c'est pas abouti. La scène du train, la scène du métro, parce qu'en fait, je pense que c'est un coup de producteur, en fait. C'est-à-dire que, en gros, le métro, il y a pas beaucoup de métro à Los Angeles, faut le savoir, puisque le film se passe là-bas. Et en fait, le métro venait d'ouvrir au moment où ils ont tourné le film. Et du coup, en fait, ils se sont dit, on va faire une scène là-dedans. Et c'est clairement une scène de massacre, hein. Assez rigolote dans la mise en place, hein, puisque tu te retrouves avec des usagers qui sortent tous leur flingue. Donc tu te retrouves avec une scène un peu à la Death Wish, mais un peu rigolote, un peu détournée, et qui, pour le coup, je trouvais vraiment un gag de comic book très marqué, quoi. Mais ensuite, en fait, comme le prédateur désingue les lumières, c'est pareil, on se retrouve avec une espèce d'effet stroboscopique où il massacre.
Et en salle, était assez désagréable.
Voilà, et qui massacre, et il se retrouve à massacrer donc tout le monde, y compris les personnages. On spoil les personnages de Bill Paxton. Et c'est une scène, je trouve, qui fonctionne pas super bien parce que finalement, elle est pas si excitante que ça à l'arrivée. En tout cas, beaucoup moins que, par exemple, la scène d'ouverture ou même la scène. Voilà. Et en fait, je trouve que le film, il fait justement les montagnes russes avec ça. C'est-à-dire que le climax est hyper déceptif à mon sens, c'est-à-dire que le fait de se retrouver dans le vaisseau du Predator,
bah déjà ça c'est une erreur je pense,
parce qu'en fait c'était une des idées du premier film que McTiernan a pour le coup vraiment écarté et a décidé de l'écarter de lui-même.
Je pense que moins t'en vois de la technologie, enfin pas la technologie, mais en tout cas du Predator, mieux c'est, quoi. Il faut en savoir très très peu, il faut que ça travaille. Et moi, du coup, c'est vrai, t'as raison, c'est un peu déceptif ce final, mais par contre, il y a un truc que moi j'aime bien, et je trouve ça dingue qu'ils aient pas travaillé autour de ça ultérieurement, c'est qu'il y a cette idée que donc c'est un jeune prédateur qu'on voit pendant tout le truc, puis il y a plein d'autres prédateurs qui arrivent à la fin, et notamment un vieux. Enfin, t'imagines que c'est une espèce de chef, quoi. C'est comme ça qu'il est présenté un peu, et qui fait un cadeau du coup à Danny Glover, parce que Danny Glover a gagné, lui, pour le coup, cette espèce de rite de passage. Et c'est un vieux pistolet à poudre, en fait. Je crois de 1700 et quelques.
1715, ouais.
Un truc comme ça. Et je me suis dit, mais moi, je sais qu'à l'époque, quand on avait vu ça avec mon ami Gabriel Rollin, que je cite ici, on avait trippé quand on s'était dit, putain, il faut faire un Predator au Moyen-Âge avec un mec en armure et tout, avec un cheval et tout, et ça va être trop bien. Et je trouve ça dingue qu'avec le succès, en plus, le revival de l'Heroic Fantasy au début des années 2000, où tu sais qu'ils n'arrivent pas à rebooter ce truc-là, qu'il n'y ait pas un mec malin à un moment qui ait dit, mais on va essayer, on va tenter ce truc-là, quoi. Je veux dire, ça pourrait fonctionner du feu de Dieu. C'est un mélange des genres, mais trippant. Et on parle de comic book, pour le coup, ça sent.
Mais après, alors voilà, le truc avec Predator, c'est que ça a pas mal enflammé l'imagination des fans. Il y a un court-métrage comme ça qui a été fait récemment, qui est pas terrible, hein, honnêtement, qui s'appelle, je crois, Predator Dark Ages, qu'on peut voir sur YouTube. Je suis mettrais pas ma main coupée, mais je pense que c'est des trucs qui ont été un peu cités dans les comic books aussi, quoi. C'est un des derniers, le Predator, il faut être honnête, c'est une des dernières vraies créatures qui a une pérennité, on va dire, dans le cinéma d'horreur, hein, même si c'est pas tout à fait du cinéma d'horreur, Predator, quoi. Mais c'est vrai.
Horreur, quoi. Hein,
en tout cas, ça s'enracine là-dedans, ça, c'est clair.
C'est un vrai monstre, en fait, en tout cas, qui reste, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un des derniers monstres, je trouve, en fait, que Hollywood a pu créer de façon pérenne. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils essayent de rebooter en permanence la licence, quoi, la franchise. Maintenant, le truc, alors, avec Predator 2, c'est que y a aussi, on ne peut pas ne pas en parler. Je ne sais pas si tu l'avais découvert comme ça à l'époque. Une VF assez croquignolesque, quoi. Donc avec des tu veux un bonbon, alors ça c'est le classique que je pense tout le monde te ressort. Je pense que si tu l'as pas vu en français, tu peux pas comprendre. Il y a aussi ce truc là, cette phrase en fait, que le prédateur, parce que l'idée du prédateur, c'est qu'il récupère des punchlines, en fait, des
gens
qui massacrent.
Putain de pigeon, je trouve qu'il marche mieux en VF. Dans mon souvenir, il dit putain de pigeon dans Danny Glover.
Ah ouais, mais parce que bon, il a une voix typique des années 80, où il fait une voix de black.
C'était à mourir de rire, quoi. Ça marche mieux que dans la VO, effectivement.
Le shit happens, ça devient on va tous y passer, et le Predator, donc t'entends le Predator qui balance ce truc là, quoi. Et t'as, comment dire, voilà, t'as, du coup, ça participe un peu.
T'as toutes ces voix aussi de l'époque, quoi, je pense. Hein,
ouais, et puis ça colle, enfin, tu vois, t'as le, à un moment donné, t'as le retour de Gary Bezet. Mais c'est un poème. Enfin, moi, je vous laisse découvrir ça si vous avez le Blu-ray quelque part ou le DVD. Je vous laisse revoir juste les bouts en VF parce que c'est un véritable poème. Alors, ça arrête pas d'injurier dans tous les sens, quoi. Et en fait, on n'a pas parlé de. Enfin, voilà, quand on dit que c'est un film foutraque, ce petit moment. Parce que t'étais là en train de t'exciter avant qu'on enregistre, donc il faut absolument qu'on en parle, quoi. Ce petit moment où, en fait, il se cautérise ses plaies.
Ouais, c'est super.
Avec une scène comique pareille. Alors moi je trouve qu'il est pareil, en fait complètement un truc de comic book, tu vois, total quoi, mais qui est complètement pété du casque aussi. En fait ça arrive au milieu du film, tu te dis, enfin à la fin je veux dire. Et...
C'est bizarre cette scène, et bizarre ce gag, en même temps il est pas totalement incohérent, mais en fait, mais je pense que c'est un truc de Joel Silver ça.
Oh complètement, ouais.
C'est un truc où il a dit voilà, là il me faut un machin, parce que justement avant c'est quasiment un peu solennel. Et tu vois, il y a des moments, il y a quand même des vraies fulgurances hein, quand même dans ce film. Parce que moi, il y a un plan que j'adore, qui est un plan très court, mais qui a un travelling arrière sur le Predator quand il crie après cette son truc. Il est devant comme ça. Et Kevin Peter Hall était vachement apprécié des mecs qui faisaient des effets spéciaux, parce que d'une part, c'était un mec adorable, mais aussi parce qu'il avait il savait bouger, quoi. Et ils n'ont jamais retrouvé un comédien de Predator qui bouge aussi bien, je trouve, que Kevin Peter Hall après. Et il a une façon de se mouvoir, en fait, d'exprimer sa souffrance de dos, en plus, alors qu'il est sous des kilos de latex, le pauvre, qui marche trop bien, quoi. Il est super beau, ce plan. Il y a quelques trucs, il y a quand même quelques fulgurances, ce plan de grue aussi, au-dessus des deux, quand il saute à travers le toit. Enfin, voilà, c'est des vrais moments de plaisir, quoi, pur et brut. Et qui, je pense, en plus, c'est marrant aussi, Predator 2, parce que c'est un film qui, je pense, est un peu plus resté qu'on ne le pense aussi. Par exemple, je pense qu'un film comme Elysium, enfin, en tout cas, même comme Neil Blomkamp, je pense que j'ai jamais eu l'occasion de lui poser la question, mais je pense que c'est un film qu'il aime bien. Je pense que dans Elysium, il y a un truc... moi que je retrouve en fait entre les deux films, quoi.
Après moi je pense que le truc de Predator 2, et surtout encore une fois si tu le compares au premier, c'est qu'il a un vrai côté film dégénéré. C'est-à-dire il est vraiment
mais comme beaucoup de films d'action de cette époque là
oui, alors
tu fais des grands chefs, puisque tu parles de grands chefs-d'œuvre en vidéo, bah... t'as parlé de Cobra, hein, donc ouais, plus grand chef-d'œuvre que...
Ouais, mais alors Cobra c'est une pure émanation. Enfin je vous invite à regarder notre épisode Stéroïdes, c'est le premier d'ailleurs, c'était le pilote en vidéo sur YouTube, mais Cobra c'était une excroissance de Stallone, en fait c'était vraiment un truc qui manait complètement lui. C'est ça qui le rend fascinant. Là Predator 2 c'est à la fois un film de prod, à la fois un film de clipper, que moi j'aime pas trop ce terme, mais bon, il y a un peu de ça quand même, tu vois.
À l'époque, ça voulait vraiment dire quelque chose.
Oui, et en même temps, en fait, voilà, tu vois, Jim et John Thomas, les deux scénaristes, ils ont, comment dire, finalement, ils ont essayé d'appliquer la formule dans le mode urbain, mais en fait, je pense que toutes les scènes sur lesquelles ils ont pu un peu triper, on va dire, dans l'écriture du premier Predator, en fait, ils les ont laissés là et on les a laissés traiter ça, quoi. Donc, le truc, c'est que tu te retrouves avec un film qui, mine de rien, est en dents de scie, mais qui est quand même, encore une fois, très réjouissant. Alors, pas seulement comme un espèce de produit nostalgique, je trouve. Il y a quand même des vraies fulgurances, comme tu dis. Mais malgré tout, bon, ça reste...
Un film de son époque. Voilà. Voilà, à remettre en perspective avec ce qui se produit aujourd'hui.
En mode full cocaïne.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Et se dire que ça... qu'est-ce qu'ils vont foutre à Disney, quoi ? Qu'est-ce que Bob Iger pense de Predator 2 ?
Alan Horn. mais est-ce qu'il l'a vu, Predator 2 ? Tu vois, je ne pense pas. Tu vois.
Qu'est-ce qu'il pense, tous ces mecs ?
Il va peut-être se faire un week-end pour... Quand on va lui dire, ça serait bien de relancer la franchise, il va se faire un week-end où il va se faire le marathon, il va faire, on va faire celui-là. On va faire Predator 2, mais en mode gentillet, quoi.
En PG-14. Ouais.
Merci, Julien.
Bah, merci, Stéphane. Merci à toi. Merci, Alain.
Merci, Alain. Merci à la technique. Et on se quitte avec quelques notes un petit peu bourrines de la musique d'Alan Silvestri, ouais. Parce que c'est quand même aussi le compositeur, en tout cas de la franchise à cette époque-là.
Moi, je trouve que c'est pas... Il va peut-être me taper sur les doigts, Raph, mais je trouve que c'est pas hyper inventif, quoi. C'est quand même... tu restes complètement vachement dans le...
Qu'est-ce que c'était bon.
Mais elle est super.
Voilà, musique bien bourrine. On se retrouve sur Twitter, Instagram, Facebook, CaptureMac.net pour le site, pour suivre les autres podcasts. Et sur YouTube, en fait, pour suivre Stéroïdes en vidéo, en podcast, et on se retrouve la semaine prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.